Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième épisode de On Rembobine, podcast consacré au cinéma. Le principe est simple, chaque film est ancré dans une réalité, qu'elle soit historique, politique ou encore sociologique, et chaque mois, On Rembobine proposera de décrypter un film en le faisant analyser par des spécialistes, qu'ils soient écrivains, chercheurs, militants associatifs, hommes politiques. Ainsi, le spectateur de cinéma pourra entendre ce décryptage qui lui apportera des connaissances plus approfondies sur le film. Ce troisième épisode est consacré au film Bâtiment 5 de Lajli, sorti en salle le 6 décembre dernier. Vous pourrez y entendre l'analyse de Michel Kokoreff, professeur de sociologie à l'université Paris 8, de Maggie Lee, militante associative à Aubervilliers, et de Stéphane Beltran, adjoint au logement à la mairie de Montreuil. On rembobine clap 3, c'est parti!
Alors, je suis sociologue, je suis professeur des universités à Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Je travaille depuis de nombreuses années, presque 30 ans maintenant, sur les quartiers populaires, ces transformations, leurs transformations.
Moi, je suis Maggie Lee, j'habite à Aubervilliers depuis 35 ans.
Je suis Stéphane Beltran, élu avec la délégation du logement et de l'habitat à la mairie de Montreuil depuis 2014.
Je ne dirais pas que la rénovation urbaine est au cœur du film. Je dirais que c'est la question du logement, et du mal-logement ou du mal-vivre dans des logements HLM, un grand ensemble bon, qui est un peu anonyme, mais bon, on voit bien qu'il y a des plans de Clichy. Et effectivement, le grand ensemble de Clichy était dans un état désastreux jusqu'à la rénovation urbaine. On voit bien aussi comment les gens sont traités, comment les populations subsahariennes, alors qu'on voit beaucoup dans le film, et elles peuvent être aussi maghrébines ou d'autres d'origine, sont traités, humiliés, disqualifiés, en particulier par l'équipe municipale, mais aussi bien par la police. Bon. Et effectivement, sur fond d'un programme de rénovation urbaine, se développe l'intrigue. C'est-à-dire, comment on va faire pour détruire cet immeuble? Comment on va faire pour évacuer les gens? Est-ce qu'on va leur racheter à bas prix 15 000 euros? C'est ça le moment un peu de colère de la personnage principale, Abby, cette jeune femme qui tout d'un coup découvre qu'on va racheter les appartements de ses parents 15 000 euros alors que ça fait 20 ans qu'ils y sont et que c'est complètement sous-estimé leur valeur. On est en deçà de la rénovation urbaine. Et c'est ça que je trouve intéressant. Après, bon sujet parce que question majeure. Et la première scène, d'une certaine manière, elle est emblématique. Alors, Lajli a quand même un talent particulier pour ses prologues. Dans le cas des Misérables, on s'en souvient, c'était la victoire de l'équipe de football aux Coupes du Monde, bon, qui donnait même au nom spécialiste, au nom footeux, un peu quand même un petit frisson. Là, c'est la descente d'un corps de la grand-mère du 6e ou 7e étage. Évidemment sans ascenseur, sans lumière, avec de temps en temps un éclairage des parois taguées, des murs tagués. Bon, c'est une véritable épreuve que de descendre ce cercueil. Et ça dit quelque chose, sous un angle un peu inédit, de ce mal-logement ou de ces conditions, absence d'ascenseur, manque d'électricité, etc. Et puis, ça introduit le thème de la mort. Parce qu'on meurt beaucoup dans les quartiers et que, alors vous me direz ailleurs aussi, mais la mort occupe une place très importante dans la vie sociale. Et évidemment, la bavure policière va prolonger cette thématique de la mort, mais bon, ça, on en reparlera peut-être après. Comment on en est arrivé à une telle insalubrité, c'est une vaste question qui pourrait nous occuper des heures, qui a donné lieu à une abondante bibliographie. Mais en gros, il y a deux éléments. D'un côté, face justement à la crise du logement après-guerre, Et après bien des hésitations pour que l'État devienne un État planificateur, un État aménageur, ce qui n'était pas du tout dans la tradition de l'État français jusqu'alors, on a construit rapidement, mal, à bas prix, des cités, des grands ensembles, dans des terrains qui n'étaient pas constructibles, donc en périphérie, à la lisière des métropoles principalement, donc bien sûr dans la région parisienne, à Marseille, à Lyon, ailleurs. Et effectivement, ces constructions bon marché se sont révélées être rapidement obsolètes. Par exemple, on a construit un ensemble de logements sociaux, parce que c'est des logements sociaux à Sarcelles. Très vite, on a parlé de la sarcellite comme une maladie des grands ensembles, et ce, au tout début des années 60, avec d'ailleurs les problèmes afférents aux grands ensembles, d'emblée posés sur qu'est-ce qu'on fait des jeunes, et ces jeunes qui sont dans le passage, et ces jeunes qui délinquent, et ces jeunes qui sont mal éduqués. Et donc forcément, cette obsolescence presque programmée, elle est allée en s'empirant au fil des années, au moment des années 80, où il y a eu aussi une forte prise de conscience du problème des banlieues comme un problème urbain et social, dans les années 90, dans les années 2000. Bon, alors il y a eu des opérations, ce qu'on a appelé des opérations de réhabilitation. Le terme rénovation a été plutôt privilégié par la suite. Mais en gros, la réhabilitation, c'était quoi? C'était on repeignait les façades. Éventuellement, on changeait les fenêtres, mais il n'y avait pas de modification de l'état des logements, de leur niveau de confort. Bon. Il y a un deuxième facteur qui est intervenu par rapport à cette histoire au long cours, d'une dégradation programmée, ça ne pouvait pas être autre chose, c'est le problème des charges. Donc les copropriétés conduisent à ce qu'il y ait une hausse des charges vertigineuses qui sont liées à des dégradations dans les parties communes, à un manque d'entretien, à un déficit des services, même simplement de nettoyage, qui peuvent être liés aussi à des occupations sauvages de tel ou tel lieu, parce qu'il faut bien qu'ils aillent quelque part des jeunes. Bon. Et donc le niveau de charge atteint un tel niveau que personne ne peut plus les payer, parce que néanmoins, dans ces copropriétés, ce sont des familles modestes, des ménages avec des revenus modestes. Et donc, il y a une dégradation qui appelle la dégradation et qui conduit à cette fameuse cité de la Forestière, par exemple, à Clichy, bon, qui donnait l'impression qu'elle avait été ravagée par la guerre, comme on a pu observer des immeubles criblés de balles à Beyrouth. Et dans les bâtiments, dans les logements des bailleurs sociaux, on retrouve un peu la même logique, c'est-à-dire obsolescence programmée, dégradation, manque d'entretien, laisser aller des bailleurs. Bon, et il ne suffit pas simplement d'incriminer les incivilités des habitants, hein, qui est quand même un peu le réflexe d'un certain discours qui consiste à dire oui, mais enfin, si les gens n'étaient pas sales, si les gens n'étaient pas respectueux, désolé, il y a aussi des responsabilités publiques qui n'ont pas été prises en charge. Donc, le résultat, c'est qu'on se retrouve à la fin des années 90 avec un plan de rénovation urbaine gigantesque de 4 milliards qui va modifier considérablement la physionomie notamment du grand ensemble, mais de nombre de cités de la région parisienne, de Lyon, de Marseille, bon, et qui va au moins sur le plan urbain, peut-être pas résorber un problème, mais en tout cas améliorer quand même les conditions de vie des gens, mais sans jamais toucher au volet social.
Moi j'habite au Grand Bosquet, donc forcément je suis au courant du projet de rénovation, mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses.
J'ai pas le dossier en tête, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier.
Bah non, justement.
Alors, en tant qu'élu au logement de la ville de Montreuil, bien sûr, je suis confronté à des situations d'habitat indigne. Les premières séquences du film, moi, c'est des séquences qui m'ont extrêmement choqué. Hein, la descente du cercueil à travers un escalier mal éclairé et évidemment la cage d'ascenseur en panne, c'est extrêmement choquant. À Montreuil, je ne pense pas qu'on soit confronté à ces problématiques. Quoi. Alors, il est possible que dans les immeubles, il y a des pannes d'ascenseur, mais c'est réglé, l'ascenseur n'aurait jamais en panne très longtemps. Après, on a affaire à des copropriétés en déshérence. Hein. Le problème des copropriétés en déshérence, c'est qu'après, aussi bien au niveau communal, du territoire communal, on n'a plus la main dessus, quoi. C'est de la gestion privée avec les syndics de copropriété et ça crée des problématiques qui deviennent insolubles, hein. Franchement, enfin, moi, je me bats parce que là, dans la dernière loi Elan du gouvernement, ce qui m'inquiète beaucoup et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est la vente du logement social. Alors bien sûr, nous, on ne vendra pas le logement social d'Est Ensemble Habitat, le logement social public, mais on s'efforce de contrer toute manœuvre des bailleurs sociaux privés, les ESH, établissements sociaux d'habitat, de vendre du logement. Et notre crainte à nous, c'est que ça devienne des copropriétés privées dégradées dans quelques années, 5, 10, 15 ans. Parce que les charges, c'est bien beau de pousser tout le monde à être propriétaire. Mais les charges à assumer sur de la copropriété verticale de 5, 6, 7, 8 ESH sont énormes, quoi. Et on arrive vite à mettre les gens en difficulté. Moi, je suis extrêmement vigilant à ne pas laisser des copropriétés se dégrader et d'arriver, mais on n'en a pas sur Montreuil, hein, d'arriver au point où c'est dans le film de Latchley.
L'objectif de la destruction pour notre bâtiment à nous, c'est un objectif d'éclaircissement, c'est-à-dire de, entre guillemets, sécurité. Ce n'est pas les mêmes choses, bâtiment 5, ça va pas du tout, tout est en très mauvais état et délabré. Et du coup, le maire choisit de détruire, enfin, de profiter d'une occasion pour détruire le bâtiment, parce qu'effectivement, il n'a jamais été remis en état, parce que c'est de la copropriété, etc. Nous, quand même, ça a été bien plus entretenu, parce que c'est du logement social. Pas du tout suffisamment, hein. Nous, ce qui est très, très difficile, c'est plus le cadre général. C'est plus, petit à petit, on nous a enlevé une jardinière par-ci. Bon, il y a des rats, c'est pas ils estiment que c'est pas de leur faute, mais enfin, il y a plein de rats. Ce qui est quand même très très dégoûtant. Il y a une mauvaise gestion des poubelles ménagères, ce qui contribue effectivement aux rats. Enfin, il y a une ambiance dite de cité. Nous, on ne se vit pas comme une cité d'ailleurs. Ici, on ne se vit pas du tout comme ça. On a plutôt tendance à parler de cour, de dalle, que de cité. Alors peut-être parce que c'est plus petit. Il n'y a pas toute cette ambiance de présence policière, violente, etc. C'est quand même un peu là. Mais il n'y a pas d'intervention, comme on peut voir dans Bâtiment 5, avec de la police qui intervient, des jeunes qui courent, etc. Moi qui suis là depuis 35 ans, les jeunes qui sont là, c'est des petits que j'ai vus grandir, donc ça aussi, rien à voir. Mais je pense que c'est pareil pour Bâtiment 5. C'est-à-dire que cette partie-là, il n'a pas pensé à la mettre en évidence, mais je pense que c'est aussi très, très important. On le sent un petit peu avec l'histoire des voitures, etc. Enfin, on le sent un petit peu quand même. Mais c'est très important, cette chose-là. C'est-à-dire que moi, comme je dis toujours, quand je viens du métro, je viens de Paris, etc., maintenant, je commence un tout petit peu, bien que je sois une vieille routarde, à me dire à 1 h du matin, quand même, on va regarder par où on passe, enfin, etc. Et je me sens pas complètement à l'aise quand je rentre. Alors, j'ai aussi maintenant des cheveux blancs. Donc, à la fois, je suis moins embêtée, mais à la fois, je me dis, je suis vécue comme une victime quand même maintenant. Donc, du coup, dans tous les cas, on est toujours vécu comme une victime quand on est une femme, c'est ce que j'ai envie de dire. Et j'arrive donc finalement avec pas tant de rassurance que ça. Et en fait, quand j'aperçois le Porsche, qui est le Porsche le plus moche de tous les temps, qui est sale, sombre, lumière cassée, etc., eh bien, je suis très rassurée. Parce que j'arrive à un endroit où je connais les gens. J'arrive à un endroit où j'ai pas besoin de parler. Quand je vais faire mes courses, je tire mon petit chariot. Et puis, si c'est un peu lourd et que j'ai l'air de peiner, eh ben, les jeunes qui sont dans le coin, ils vont venir machinalement, même pas. Ça va être naturel. Ils vont prendre mon chariot et puis ils vont le tirer. Et puis quand j'arrive ici, il y a 4 marches. Enfin, quand j'arrive chez moi, eh ben, ils vont me porter mon chariot pour 4 marches, etc. Donc, c'est. C'est ça, il aurait pu le montrer. Parce que c'est évident, évident, évident qu'il y a ça. Alors moi, j'ai reconnu toutes ces petites choses-là, tous les petits signes. Ça se voit moins. On le voit dans le décès de la grand-mère, où il y a tout l'escalier qui vient, qui porte, qui soutient, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est quand même un petit peu ça. Et donc, du coup, quand on parle de cité, ça enlève ce truc-là. C'est-à-dire que pourquoi moi je trouve que ça ressemble plus nous, chez nous, et que tout le monde appelle ça plutôt une cour, c'est parce que ça fait penser à la cour africaine. La cour africaine, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est plusieurs espaces de vie d'une même famille, mais une famille élargie, et puis un grand espace collectif qui pratiquait pour aller et venir. De vie, pour moi, quand je parle de cour africaine, c'est par exemple, comme mon gamin grandissait, je descendais, puis on venait s'asseoir sur les bords des jardinières, et il y avait toutes les femmes, puisque les espaces décrits par l'Adjni sont toujours très masculins, ce qui est normal, puisque c'est un homme, donc du coup, c'est sa réalité, et c'est vrai que c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des temps extrêmement masculin, et il y a des temps extrêmement féminins. Lui, il ne les pratique pas, ces temps féminins. Il n'y a pas de jeunes garçons avec les mamans. Les mamans, elles sont toutes ensemble, elles jacassent, elles bavardent, elles sont contentes de se retrouver, etc. Elles surveillotent les gamins. Tout le monde surveillote les gamins en même temps. Personne ne se sent non impliqué quand un gamin tombe par terre. Mais c'est vrai qu'il y a des espaces masculin, féminin. Je fais cette référence parce que quand j'ai vu Les Misérables, moi, c'est ce qui m'a marqué, mais extrêmement positivement. Puis après, un jour, j'ai lu la critique, puis j'ai vu que c'est un reproche qu'on lui fait, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes, enfin, on va dire que des hommes, hein. C'est à peu près ça. Et en fait, c'est la réalité. C'est-à-dire que ça fait partie des caractéristiques, en fait, de ces espaces. C'est-à-dire que tout à coup, on a des temps qui sont purement masculins et du coup qui font peur. Hein. Et en général, ça fait partie des éléments de la rénovation urbaine. C'est-à-dire que parmi les choses qui sont présentées, comme il va y avoir de l'amélioration, il y a les femmes ont peur de passer, de traverser les espaces parce qu'il n'y a que des hommes.
On parle de quoi exactement? De problèmes sanitaires? Problèmes scolaires, d'insécurité, droits des femmes, on parle de quoi exactement?
On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes.
Alors je dirais pas que les équipes politiques locales sont complètement déconnectées de la réalité, du quotidien des habitants. Ce qui est frappant, c'est pas tant la déconnexion, c'est plutôt que le décalage. C'est-à-dire qu'en gros, l'équipe, quitte à spoiler un peu l'affaire, mais l'équipe municipale, elle est dans une logique qui est la sienne, et qui consiste effectivement à saisir une opportunité pour faire évacuer notamment ce fameux bâtiment, bon, ce qui donne lieu à des scènes quand même assez terribles, voilà, où les gens doivent évacuer presque d'une heure à l'autre, avec très peu de biens. Donc c'est assez cocasse, parce qu'il y en a qui amènent leurs oiseaux, il y en a d'autres qui balancent leur matelas par la fenêtre, enfin bon. Voilà, on est dans une logique où est-ce qu'on pourra nous reprocher de faire évacuer alors qu'on sauve des vies? Et derrière cette logique pseudo-humanitaire, qui est dénoncée évidemment par le film, il y a une logique qui est plus cynique et bon, qui est plus économique. Voilà, on n'aura pas à débrousser 15 000 euros par logement. Mais ce qui est frappant, donc, tout en étant dans leur logique et tout en étant bien au fait, et notamment il y a le principal adjoint, bon, qui se trouve être effectivement quelqu'un de qui vient d'Afrique noire, je ne sais pas exactement de quel pays, qui jouait d'ailleurs, c'est marrant, le maire dans Les Misérables, mais bon, c'était un autre personnage. Lui, il dit, mais c'est sur moi que ça va retomber, non, tu ne peux pas faire ça, si tu prends cette décision, si tu vas dans l'ordre, comme dirait un certain président, ça va retomber sur moi. Bon, donc lui, il est quand même, il le dit d'ailleurs, il vit au quotidien, les gens, il les rencontre. Donc, ils sont pas complètement hors sol. Et d'ailleurs, on pourrait pas dire ça de Clichy-sous-Bois depuis des décennies. Mais ils sont en décalage et dans le sens où il y a une logique qui ne prend pas du tout en compte les préoccupations. Peut-être, on pourrait dire, qui est totalement irrespectueuse à l'égard de ce que sont ces familles qui habitent dans ces logements. Et donc, c'est là où ça clash. Bon. Et quand il y a un petit garage informel qui s'est installé au bas de la cité, scène qu'on peut rencontrer dans de nombreuses cités, voilà, avec des gens qui réparent les voitures, qui se font un peu d'argent, et puis en même temps, qui permettent aux automobilistes de faire des économies. La décision du maire, c'est on fait évacuer, les CRS arrivent, ça tourne mal, bon, c'est l'embrouille, arrestation, etc. Voilà, donc c'est assez typique d'une logique d'affrontement qui s'oppose à une économie de subsistance. Non, le maire, il ne pense que en termes d'ordre, il faut être rigide, il faut rien laisser passer. Bon, mais plus il est dans cette posture et plus il voit s'accumuler les problèmes. Donc c'est moins déconnexion que décalage.
Je pense que ce maire est un maire un peu classique. Mais je me demande s'il existe des élus. Et évidemment, moi je suis plutôt à gauche, hein, donc du coup... J'ai plus confiance aux élus de gauche, mais même avec les élus de gauche, quand c'est eux les premiers nous qui nous ont annoncé, ils dansent d'un pied sur l'autre parce qu'ils savent pas, comment faire. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est des dispositifs qui disent pas leur nom, c'est-à-dire qu'on a inventé plein de mots et les plus complexes possibles, comme ça au moins la population les comprend pas, comme gentrification, ta, qu'on retrouve dans ce film. C'est impossible, jamais on l'entend, qu'il s'agit d'enlever les Noirs et les Arabes, enfin, voilà, et puis de changer de niveau social. C'est vraiment quelque chose qui est très, très difficile pour les élus. C'est-à-dire qu'il y a des tabous à toutes les portes, quoi, à toutes les avancées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la main sur le financier, parce que c'est du cofinancement et c'est des maquettes financières impossibles à gérer. Donc c'est eux, ils sont habitués à négocier un petit peu avec le voisin un peu plus à gauche, un petit peu avec le voisin un peu plus à droite, un petit peu avec les habitants, un petit peu avec la grosse association. Mais quand on doit négocier avec le conseil général, le conseil départemental, la DRI, la DRA, c'est impossible. Donc du coup... ils ne maîtrisent pas la partie financière, ils ne maîtrisent pas les échéances, il n'y a absolument rien qu'ils maîtrisent. Et ils n'ont pas le droit de dire, excusez-moi, on va enlever les Noirs et les Arabes. Ils n'ont pas le droit non plus. Donc ils ont le droit de rien dire. Donc du coup, ça donne des maires tout péteux comme dans le film, quoi, qui se réjouissent et qui deviennent totalement inhumains sur une situation comme ça, en disant ouf, 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 il y a eu le feu, je vais pouvoir les foutre dehors. Sans passer par la négociation avec le conseil général, le conseil machin, le conseil bidule chouette, sans passer par il faut négocier avec les sous, sans passer avec il faut que je tienne un discours, il faut que je réunisse les habitants. Et c'est ça qui est très 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 choquant quand on voit les matelas passer par les fenêtres, etc. Puisque quand même les dispositifs de rénovation urbaine, le seul petit truc qu'ils ont réussi, c'est qu'ils ont quand même établi comment on sort des appartements, l'obligation de déménagement, l'obligation de présentation de solutions, patati patata, même s'il y a une embûche à chaque phrase, mais quand même. Alors que là, ce qui est très impressionnant, c'est que, enfin, je ne pense pas que les gens le voient, puisque par définition, les gens ils savent pas ce que c'est que les plans de rénovation urbaine. Donc du coup, les gens ils sont un peu tout seuls. Enfin, on est victime. Moi, en tout cas, je me sens victime du plan de rénovation urbaine parce que tout est incohérent. Donc il y a plein d'éléments pour se défendre, mais on a finalement à chaque fois pas vraiment d'éléments pour se défendre. C'est-à-dire que par exemple, on est obligé de nous présenter trois réponses, enfin trois solutions. Mais où? Dans quelle situation? De quelle façon? Dans le 77? À quand? Rien n'est clair. Et puis qu'est-ce qui se passe alors? Il y a tout un tas de choses comme ça qui fait que, avec la protection des plans de rénovation urbaine, enfin voilà, même avec ça, ceux qui doivent sortir de leur appartement sont quand même des victimes. C'est-à-dire qu'on leur propose des choses qui ne conviennent pas, dans des lieux qui ne leur conviennent pas, avec des échéances très courtes. Mais on n'est quand même pas dans « on jette nos matelas par les fenêtres ». C'est ça un peu la différence.
Des gens le jour de Noël.
Est-ce que c'est à ça qu'elle vous sert, vu la police?
C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien, quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise.
Franchement, dans ce qu'il apparaît dans le film, nous n'avons pas cette pratique sur Montreuil. Je me rappelle d'incendie, mais alors ce n'est pas des copropriétés d'incendie dans le logement social. Ben, on reloge les gens, hein. Ça nous prend le temps qu'il faut, on reloge les gens, on trouve des solutions d'hébergement en hôtel, et petit à petit, on résout le problème des familles. Dans les copropriétés, ça ne nous est pas arrivé. Après, ce qui nous arrive, c'est des copropriétés qui sont en état d'insalubrité ou de péril imminent, mais sur des petits, pas comme sur des bars dans le film, hein, c'est des petits immeubles de copropriété, et avant la fermeture du bâtiment et sa destruction, on reloge les familles. On met un point d'honneur à reloger d'abord les familles dans le logement social ou avec d'aides solutions si les familles ne peuvent pas rejoindre le logement social, dans des CH, des centres d'hébergement de réinsertion sociale, dans nos résidences sociales, parce qu'il y en a plusieurs sur la ville. Mais on ne laisse jamais comme ça, suite à des décisions administrative et politique de fermeture de bâtiments, de maisons, on laisse pas les gens à la rue. Non. Après, c'est le temps que va prendre le relogement qui est peut-être problématique. Parce que comme vous le savez, on est dans une période où nous sommes, et quand je dis nous, j'englobe tout le monde, hein, les citoyens, les élus, les services sociaux, où nous sommes en grande pénurie de logement social après deux mandats présidentielle au gouvernement de M. Macron, qui a fait en sorte petit à petit de détruire le logement social public par différentes lois comme la loi Elan. Et il y a très peu de logements sociaux qui se construisent, même si à Montreuil, on est content et fier d'annoncer qu'on se maintient à 37% de logements sociaux sur l'ensemble de la ville, largement au-dessus de la loi SRU. Mais sur l'ensemble du territoire, il y a très peu de logements sociaux qui se construisent. Mais par exemple, là, nous, on a deux plans en rue. Un plan en rue au Clos des Français, au pied de Lannou, de la cité de Lannou, et un plan en rue à Montreux-le-Morillon. Alors là, c'est des locataires du logement social. Hein. C'est deux grosses cités de l'ancien OPH et maintenant Est Ensemble Habitat. Et les bâtiments ne seront pas détruits tant que l'ensemble des familles ne seront pas relogées. C'est le deal qu'on passe avec l'État. On ne laissera personne à la rue qui sont habitantes ou locataires de nos logements sociaux. Alors l'ANRU, c'est l'Agence nationale de renouvellement urbain. C'est l'État qui nous permet, à travers ses financements, de réhabiliter un quartier et de faire aussi de la réhabilitation de nos immeubles de logements sociaux. Pour les plans de rénovation urbaine du logement social public, parce que dans le film, on est dans le cadre de copropriété. Hein. Il faut bien faire le distinguo entre les copropriétés et le logement social public. Dans le cadre de l'ANRU et des rénovations de quartiers et des rénovations de nos bâtiments, on concerte avec les habitants, bien sûr. Et les relogements se font sur la base des compositions familiales. Là, je pense que ce qui sous-entend le film, c'est-à-dire qu'on récupère cette barre de copropriété et on en fait du logement pour famille de 2-3 personnes et du logement T2, T1 pour faire un maximum de bénéfices. C'est ça que ça sous-entend politiquement.
Dans notre relation Aux élus, ce qu'il y a de compliqué, c'est que notre maire, elle est nouvelle. Elle est très, très, très nouvelle. Et donc, du coup, on voit la différence avec des nouveaux élus qui ne sont pas familiarisés avec Aubervilliers, je vais dire. Beaucoup disent, de toute façon, ils ne sont pas d'ici. Mais je ne vais pas dire ça parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit des élus qui ne sont pas du tout familiarisés avec la population, qui sont très, très, très tendus. Nous, je crois, on a gardé notre pratique de ce qu'on a vécu avec les mairies de gauche, qu'elles soient socialistes ou communistes, et avec cette mairie de droite. Mais peut-être que ça n'est pas forcément un lien entre droite et gauche. J'en sais même pas. Je suis même pas certaine que c'est un problème de droite et gauche. Je pense que c'est un problème de... Je ne suis pas familiarisée avec la population, ce qui est encore pire. Parce que quand on interpelle ou qu'on vient en contradiction, etc., on a vite des leçons sur comment on le fait, comment machin, etc. Enfin, les élus sont plus tellement tendus qu'ils ne sont pas tellement à se dire « chouette, la population nous interpelle, donc on fait partie de... on est l'un des membres, donc on compte sur nous ». Donc on pense, on croit en nous. Non, c'est... Ouh là 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 là, ça me parle, il faut déjà que je me défende. Puis après, éventuellement, si j'ai rien d'autre à faire, j'écouterai ce qu'ils disent. Dans le film, c'est un maire qui ressemble un petit peu, plus fort. Mais malheureusement, j'aurais aimé dire une caricature, mais malheureusement, c'est même pas une caricature, quoi. C'est un maire effrayé. Voilà, c'est un maire effrayé qui est sur une stratégie personnelle et qui a qu'une hâte, au moins c'est un de ceux qui croient au plan de rénovation urbaine. Il a qu'une hâte, c'est que le plan de rénovation urbaine se mette en place pour que toute cette espèce de gros cube et tous ces gens qui sont un peu trop foncés, un peu trop ceci, un peu trop cela, disparaissent et que ça y est, ils soient à la tête d'une grande ville, etc. Alors d'abord, il n'a pas lu les résultats des plans de rénovation urbaine. Mais les gens ne disparaissent pas. Ensuite, il a pas bien compris, mais les gens, ils continuent à être présents parce que c'est eux qui habitent là, c'est pas lui. Et je crois que dans le film, c'est ça qu'on voit. Je sais pas si c'était l'intention du film, mais ce que l'on voit, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'ici, et finalement, à la fin, il est toujours pas d'ici. Et c'est lui qui est sorti de l'histoire. Et finalement, c'est Abby qui reste. En gros, moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Et c'est un peu ce qui se passe dans pas mal de mairies. Alors peut-être qu'après, si la droite se renouvelle, après, peut-être que ça finira par marcher. Mais là, en tout cas, on voit que le maire arrive. Il n'y connaît rien. Il ne s'inspire pas, effectivement, de ce black qui se rend compte que oulala, il s'est mis dans le pétrin et essaye de conseiller, essaye de diriger, essaye d'alerter. Il suit aucun des conseils, prétentieusement, mais en fait, finalement, à l'arrivée, c'est lui qui sort de l'histoire, quoi.
La mort du jeune Naël, 17 ans, le 27 juin 2023, a rappelé ce qu'il en était des rapports entre jeunes et police. C'est pas un événement isolé. Alors c'est une question qui est quand même très documentée, c'est-à-dire notamment, on n'aime pas les statistiques ethniques en France, mais il y a une enquête qui a été réalisée, bon, elle commence déjà un peu à dater en 2014, sur les contrôles d'identité discriminatoire, autrement dit les contrôles aux faciès, bon, qui montrent que quand on est noir ou arabe, on a 14 fois plus, ou entre 12 et 14 fois plus de chances d'être contrôlé que quand on est blanc. Point, barre, et maintenant on discute éventuellement des causes et éventuellement des solutions, mais on ne peut pas le nier. Or, malheureusement, on est quand même on est dans une culture du déni en France. Mais ça, c'est qu'un aspect des choses. C'est un aspect des choses, les discriminations, les contrôles répétés, les humiliations, les tutoiements systématiques, les fouilles à corps provocantes, les interpellations et éventuellement les mises à nu dans les commissariats de police, juste pour scène d'humiliation symbolique que raconte par exemple très bien dans une de ses enquêtes Didier Fassin dans la force de l'ordre et les poursuites, les pare-chocages et parfois ou trop souvent des bavures. Donc effectivement il y a un problème endémique des rapports entre jeunes et population. On a plutôt le sentiment qu'on accroît la possibilité d'affrontements, de conflits, d'émeutes, plutôt qu'on cherche plutôt une stratégie de, qu'on appelle par ailleurs en maintien de l'ordre de désescalade, de désamorçage, de restauration d'un dialogue certes difficile, mais qui ne passe pas en envoyant des troupes super armées ou des Robocop et qui appellent d'autres outils, mais qui ne sont pas du tout pris en compte. Aujourd'hui, la police, c'est un ennemi. Elle est vécue comme un ennemi. Elle est vécue comme un danger. Elle est vécue comme un ennemi et comme un danger, mais pas simplement par les jeunes, mais aussi par les familles, par les mères, par les pères. Alors, on n'en est pas aux États-Unis où on apprend aux enfants à se comporter lorsqu'ils entendent des balles siffler. Et l'Adjli n'est manichéen que pour ceux qui méconnaissent la réalité sociale des rapports entre jeunes et police, mais pas que dans les quartiers. Pas que dans les quartiers, évidemment. C'est, si c'était que dans les ghettos, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Ce problème, c'est l'institution policière. Qui est dans un statu quo, qui est dans une politique anticriminalité, voilà, qui consiste à envoyer des bacs sur le terrain pour faire du chiffre, pour lutter contre les trafics et pour éventuellement faire du renseignement et accessoirement pour imposer l'ordre républicain, la discipline à travers le virilisme de ses membres aux petits jeunes qui manqueraient de respect de la loi républicaine. Bon. Or, ils ne démantèlent rien. Parce que la demande est tellement forte que, ils ont un petit peu du mal. Ils ne font pas de renseignements, parce que c'est pas leur boulot. Si c'était le cas, ça se saurait. Il y a 85% des interpellations qui n'ont aucune suite judiciaire. Donc ça veut dire que le rendement de cette politique anticriminalité est nul. Et quant au virilisme, je suis un bonhomme, tu vas me respecter, ils adoptent les codes des jeunes des cités. Donc effectivement, on n'en est pas sorti. Donc je fais un constat un peu implacable, mais dans le film, moi je n'ai pas du tout le sentiment qu'il est manichéen. Et c'est peut-être ça qui dérange d'ailleurs. Et c'est peut-être ça qui dérange et qui provoque des réserves, des critiques, en disant oui mais quand même, l'Adjli, bon, il y va fort. Non, il ne va pas fort. Ah oui, c'est-à-dire qu'on en arrive aux émeutes urbaines parce qu'il y a un trop de colère qui devient une rage collective et qui ne peut pas ne pas déboucher sur autre chose que de la violence de rue face à la violence qui est subie et qui est déclenchée par une énième affaire. Bon. On dit c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'incident qui enflamme la prairie mais qui était inflammable. Bon, toutes ces images en fait elles disent la même chose, c'est qu'il y a un état de tension peut-être pas permanente. Il y a des moments où il y a beaucoup de tension, il y a des moments où ça tombe, mais je pense que la rage est l'expression politique des quartiers. C'est pas le nihilisme, c'est pas la destruction pour la destruction, c'est le langage des sans-voix et qui par définition est mal compris, non compris, assigné à de la pure violence. C'est un film muet, l'émeute. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les mots pour le dire, hein, parce que parfois il y a une espèce de cliché aussi qui vient en partie de l'enseignement d'ailleurs, l'éducation nationale. Bon, ils ne savent pas s'exprimer, donc ils utilisent la violence. Bon. Et d'une certaine manière, on le voit, Blaze, il est... C'est quelqu'un de civilisé, il sait parler, il parle avec sa copine. Bon, enfin c'est pas vraiment sa fille, c'est sa copine, même si c'est pas, si c'est pas dit comme ça, mais il y a un moment où c'est trop, et effectivement il explose, et l'Adjli le fait exploser très fort et très loin, je n'en dis pas plus. Quand on passe du temps dans ces cités, dans ces quartiers, quand on assiste, voilà, à certaines scènes, que ce soit avec la police ou... c'est vrai qu'on finit soi-même, même si on est un petit bourgeois fonctionnaire d'État, à être en colère aussi, hein. Et dans les discussions, alors souvent ça revient, on dit mais pourquoi vous êtes en colère, mais non mais calmez-vous, quand on parle de racisme, de discrimination, de violence, d'homicide de policiers, voilà, de son fils, de sa fille qui sont morts, non mais calmez-vous. Ah non, on se calme pas, on est énervé, on a des raisons d'être énervé. Et ces raisons, elles ont une signification politique. Et donc, je trouve que Blaze, voilà, incarne bien ce personnage qui finit quand même par ne pas passer à l'acte.
Le logement génère une telle frustration sur Montreuil et sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France qu'on est confronté à la violence, hein. Moi, j'ai eu déjà des incidents et des dépôts de plaintes pour des menaces diverses et des incidents divers. Après, la violence à un tel niveau là, dans le film de l'Adjli, elle est générée par une violence sociale structurelle qui est incroyablement puissante et violente. C'est bien ça le fond du problème. La violence générée chez ce jeune homme à la fin du film, elle se nourrit des injustices et de l'indignité qui naissent des politiques locales quand elles sont menées par un maire tel qu'on voit le maire de cette ville. Donc, moi, la violence, elle ne peut pas être légitime. Ça ne peut pas être légitime, la violence. Mais il faut qu'on, en tant qu'élu, il faut qu'on fasse extrêmement attention pour ces personnes sur le bord du chemin. Parce que obligatoirement, ça génère des comportements qui créent de la violence, l'indignité de vivre. On parle beaucoup du manque de respect des jeunes ou des moins jeunes vis-à-vis des forces de l'ordre ou de l'institution municipale ou de l'État et tout. Mais le premier des manques de respect, il se trouve aussi dans les situations de vie qui sont indignes. La véritable violence, c'est que pour moi, hein, quand vous allez au CHI André Grégoire à Montreuil, à l'intercommunal, parce que vous avez besoin d'un soin en urgence et que vous attendez 4-5 heures aux urgences ou dans le couloir des urgences, voilà, là s'applique une vraie violence sociale. Pareil en termes éducatifs, hein, quand je vois que les profs dans le 93 à Montreuil et en Seine-Saint-Denis sont pas remplacés comme ils sont remplacés à Paris, voilà une vraie violence sociale qui peut engendrer toutes ces violences, peuvent engendrer après un mécontentement, une indignité qui fait que ça peut tourner à la violence. Ouais.
C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien, quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise.
La présence de cette jeune femme dans ce film est intéressante parce qu'elle rappelle que les femmes sont en fait très actives dans ces cités. Alors, la répartition de l'espace dans ces cubes et ces cités, c'est que les femmes sont à l'intérieur et les hommes sont à l'extérieur. Donc, du coup, on ne voit pas ce que les femmes font en général. Mais c'est elles qui combattent tous les espaces associatifs, toutes les réunions publiques, tout, c'est que des femmes. C'est jamais les hommes qui sont dans les espaces associatifs. Ils sont très, très, très peu nombreux. En général, les hommes, ils sont comme dans la vie de partout, pas des cités, de partout. C'est-à-dire qu'ils sont à la tête. Voilà, c'est-à-dire que quand un homme est dans une association, il est président. Et sinon, si c'est du bénévolat, il a d'autres chats à fouetter. Voilà, et donc ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on les voit pas, ces femmes. On voit pas l'action des femmes en général. C'est aussi une bonne réponse, je dirais, de la Gilly, parce que comme il avait été un peu critiqué sur Les Misérables parce que c'était l'ultra-masculin, alors que c'est la réalité, Moi aussi, ça m'énerve. Mais c'est la réalité. Donc, comme il a été interpellé par ça, bah, il s'est dit, allez, je vais essayer de montrer un truc d'une femme, ce qu'elle fait. Mais les femmes, elles font ça tout le temps. Et c'est ça. Et toutes les histoires que l'on peut avoir dans le 93, etc., avec des associations, ou les problèmes de lycée, ou les problèmes de drogue, regardons BFM TV, c'est qui fait ça? C'est les femmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, Abby, elle est un échantillon. Moi, personnellement, en tant que femme et militante, on va dire féministe, les femmes, elles sont solidaires. Les femmes, elles font des trucs entre elles. On le voit quand Abby court vite, vite, vite. Je vais aider ma petite famille, je cherche les doudous, etc., etc. C'est comme ça, la réalité. Et c'est jamais une. Donc, la situation d'Abby, ça n'existe pas, en fait. Mais moi, j'étais très contente, effectivement, de trouver cette espèce de portrait pour se rappeler que, en vrai, 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 c'est les femmes qui vont agir. Et tous les hommes, effectivement, vont agir comme Blaze. C'est très réaliste, mais c'est presque symbolique sans qu'ils le veuillent, à mon avis. Mais il rappelle exactement ce qui se passe.
On a la plus grosse concentration d'étrangers taux de département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se presse dehors ou quoi, toi?
Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans le choix d'Abby, c'est parce que, justement, elle a plein de caractéristiques. On peut se dire, par exemple, que, effectivement, Abby, elle est musulmane, et on peut la lire par rapport à ce qu'on a l'habitude d'attendre ou de penser ou de croire sur le fonctionnement d'une femme musulmane. Là, ça montre que c'est pas important. C'est complètement secondaire. On s'en fiche qu'elle soit musulmane. Si on nous disait qu'elle était bouddhiste, finalement, ça changerait rien au film. Ça changerait rien à l'histoire. On s'en moque complètement. Jamais elle va intervenir par rapport à une musulmanité quelconque. Nos repères sur sa musulmanité, c'est soit sa famille, soit le fait qu'elle couvre ses cheveux. Mais à aucun moment, elle va agir, se retenir, avancer, reculer par rapport à ça. Et ça aussi, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça rappelle qu'il y a un discours unique sur ce que sont ces personnes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, oui, enfin, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie de nos voisinages, etc. Moi, les copines et tout ça, c'est pas du tout important qu'elles soient musulmanes ou pas.
Moi, je pense qu'on ne laisse pas assez de place aux femmes en termes politiques, à nos femmes des quartiers. Je pense qu'on a une vraie richesse qu'on sous-estime. Pour être proche de familles issues de l'immigration, même très proches, hein, le désir des femmes de s'en sortir par le travail, par le milieu associatif, pour certaines en faisant de la politique, je le trouve plus important que chez les garçons. Il y a un fait culturel que moi, je constate, hein, la capacité d'émancipation des femmes, aussi bien émancipation culturelle, professionnelle, associative, est beaucoup plus importante que chez les jeunes garçons, les ados, les jeunes hommes. Je sens une conscience plus forte, ouais, chez nos jeunes femmes, les quartiers populaires, et une envie de faire bouger les choses plus importantes.
Je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui est intéressant d'un point de vue féministe, c'est que et dans Bâtiment 5 et dans Quand les flammes s'éteignent, le personnage principal est une femme. Alors, c'est pas une beurette dans le cas du rôle de Camilla Jordana, ou c'est pas, je sais pas comment on dit d'ailleurs, noirette, ça se dit pas vraiment. C'est pas leur racisation qui est importante, mais ce sont des femmes qui ont une prise de conscience politique et qui deviennent des moteurs. qui deviennent des leaders. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Est-ce que ça annonce quelque chose? Parce que quand même, dans les mouvements politiques issus des quartiers populaires, il y avait des femmes, hein, mais quand même, les bonhommes occupaient la place principale. Bon. Et donc, dans ces deux films, on pourrait voir quand même un peu d'optimisme. Hein, gardons un peu d'optimisme quand même, ne soyons pas trop noirs. Voilà, dans cette double figure féminine. Et donc, oui, on peut s'attendre, on pourrait espérer qu'un jour, il y ait une femme issue d'ascendance immigrée, ascendance de l'immigration postcoloniale, qui soit mère. Oui, ça serait peut-être un message plus fort qu'une ramayade quand elle était ministre. Une femme venant d'origine sénégalaise, élue dans une collectivité territoriale, ça serait pas une cosmétique politique. Voilà.
Alors, une bonne gouvernance pour une ville comme Montreuil, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans les quartiers. D'être à l'écoute, non pas en tant qu'observateur extérieur à ce qui se passe, mais d'être à l'écoute réellement des besoins de nos citoyennes et de nos citoyens. Et d'essayer d'y répondre, même si les politiques nationales ne nous aident pas beaucoup en ce sens. Et c'est ça la vraie tragédie qu'on vit.
La proposition de l'Ajli, c'est ça. C'est finalement une petite habille qui se positionne et puis qu'elle devienne mère. C'est peut-être ça sa proposition. C'est peut-être simplement le discours de dire prenez en main, vous là, arrêtez de jeter vos matelas par les fenêtres, arrêtez de vous révolter. En mettant le feu ou en détruisant ceci, cela. Allez, venez en mairie, rentrez dedans. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu un peu mon histoire de vie. Je crois qu'elle s'est construite comme ça sans m'en rendre compte. Je me suis d'ailleurs rendu compte qu'elle se construisait comme ça, c'est-à-dire, je prends la parole, j'agis, je fais. Donc, moi, Abby, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Le jour où tous les gens de mon immeuble, puis après tous les gens d'ici m'ont dit « mais t'es notre mère, allez, présente-toi ». Et je pense que Abby, à un moment donné, ben, on a dû lui dire ça aussi, parce que quand on se censure et qu'on y croit, à un moment donné, les habitants, ils se disent « mais pourquoi c'est pas elle, quoi ?» Enfin, voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut se dire que finalement, est-ce qu'Abby, elle doit devenir mère à la fin. En tout cas, c'est une belle proposition. Ça paraît drôlement bien. Ça paraît drôlement dur. Parce que quand les gens, ils ont été tellement malmenés par des années et des mairies et des élus, moi, je vois bien, il y a un tel espoir que... Est-ce qu'on peut arriver à être ce niveau d'espoir? Moi, à répondre à ce niveau de demande, à cette chose extraordinaire, je pense qu'il est indispensable que petit à petit, chaque habitant, enfant d'immigré, pas enfant d'immigré, j'en sais rien, parce que c'est plein d'enfants pas d'immigrés là-dedans, qui sont dans des galères pas possibles aussi. Mais je pense qu'il faut se rapprocher de la mairie. Il faut revêtir du bleu, blanc, rouge, comme les autres, parce que voilà, il faut que les gens interviennent. Être maire, je sais pas.
On ne peut pas être que en colère. On ne peut pas. Ça en a marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir.
Et toi, comment tu te définirais?
Moi, je suis une Française d'aujourd'hui.
Voilà, c'est la fin de cette troisième émission de On rend bobine, consacrée au dernier film de L'Ajli, Bâtiment 5. J'espère que votre soif de connaissance est assouvie et que votre curiosité est demeurée intacte. Je remercie chaleureusement mes invités, Michel Kokoreff, Maguili et Stéphane Beltran, d'avoir répondu à mon invitation. On rembobine, c'est une émission de Géraldine Amgar, Mixage et design sonore, Zhaogu Wang.